19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir. Ah là 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 là, ravi de vous retrouver, vous le savez comme chaque soir, nous sommes mercredi. Et de 19h à 20h, et bien dans les informés, ce que je vous propose, c'est parti tout de suite. Au menu, nous allons débattre. Pas mal. Arnaud Montebourg qui retire sa candidature. Que s'est-il passé, mon cher Arnaud? Est-ce que t'es plus présidentiable? Oh, je me permets le tutoiement. Adil a craqué. Non mais oh. Enfin bref, c'est ça exactement. Arnaud Montebourg donc a annoncé son retrait. On va s'intéresser au décryptage. Ensuite, Yannick Jadot qui tape un coup de gueule au Parlement européen. Mais Yannick Jadot, il a sévèrement taclé Emmanuel Macron. Sauf que le chef de l'État, il se laisse pas faire. Hey. Tu sais, on apprend, y a un vieux proverbe qui dit, on n'apprend pas un singe à faire des grimaces. Troisième sujet qui a retenu notre attention. Eh bien, vous savez quoi? C'est le port du voile. Le revoici, le retour. Ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, le voile. Ben oui, c'est vrai. Le port du voile lors d'une compétition sportive interdite de nouveau par les sénateurs. Les élus ont voté, eh bien, vous savez quoi, hier, un amendement à la proposition sur le, de loi sur le sport. Sauf que la ministre des Sports, elle a dit « Je suis opposé ». Oui, mais pourquoi? Ben, on va tâcher de comprendre. 19h30, c'est le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Soussine. Le standard, vous le savez plus que jamais, au 01 53 48 3000. Vous, partout en France, vous venez, vous témoignez, vous réagissez au sujet que je vous propose et vous échangez avec nos débatteurs. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, hein, surtout en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien c'est parti alors, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Avec Gamal Abina, le porte-parole d'un mouvement.
Le MDC, Mouvement des droits civiques.
MDC ?
Toujours.
Toujours ? Plus que jamais.
Plus que jamais.
Ça va, Gamal ?
Tranquillement.
Oui.
Je m'apprêtais à boire, excusez-moi.
Vous buvez du coca chéri ?
Toujours aussi traître.
Oh, c'est incroyable, je suis surpris.
On boycotte, mais pas tout.
Hein. Ah ouais, non mais d'accord.
Cherry
il
Coke.
Il y va fort, il a droit à une sonnette. Hein. Clochette, pardon.
Une clochette. Hein.
Ah ouais, parce que le... Le coca chéri, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça.
Ouais, mais c'est comme les gamins. Hein,
on s'arrête pas. Non, mais il faut rester gamin. Surtout, c'est ça le plus important. Monsieur l'élu, monsieur oui. L'écolo, monsieur Philippe Nadjibouyaki, comment ça va?
Écoute, ça va, merci.
Mais dis donc, vous, ça, vous avez un feuilleton à vous tout seul, vous.
C'est extraordinaire.
Il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'article, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de lui. En fait, c'est la série Netflix Philippe Boyaki.
Non, mais on va attaquer la dernière saison, là, je pense.
Ah, je ouais. Voilà, Netflix, ils vont venir te chercher.
On fait bien des séries sur Mouli, donc pourquoi pas.
Et qui vont aller chercher Boyaki. Qu'est-ce qui se passe, Boyaki, chez les écolos?
Ils ont pris un écolo énervé.
C'est le Benalla, c'est ça?
Ouais,
le Benalla de Jadot. Le Benalla de Jadot.
Famille.
Hein. Il y a le Benalla de Macron et le Benalla de Jadot.
Chacun son Benalla.
Ouais, putain. Sauf que Macron, il a soutenu Benalla. Jadot, il a lâché Boyaki.
C'est qui? Boyaki, c'est qui? Ça arrive, ça va, c'est bon.
C'est chaud, là.
Il y en a qui est aux affaires, quand même.
Non, j'en veux pas, Yannick. Il a été pris dans le tourbillon.
Oh, le faillot.
Non, mais moi, je suis comme ça. Je suis loyal.
Le mec, il est trop loyal. C'est pour ça qu'il se fait déchirer. Faut pas être trop loyal.
Il est en forme, Adil.
Je suis en forme.
Non, je suis loyal. Et au contraire, ça forge. Et puis c'est pas grave. Oh là là,
ça forge, j'aime bien. Continuez à vous forger. Vous avez raison, Philippe Nadjibouyaki. Continuez à vous forger. Vous avez raison, vous irez loin.
Il m'a coup de hache.
Non, mais attendez.
C'est énorme.
Mais il tend le bâton.
C'est pas le bâton, c'est la
hache. C'est pas de ma faute, il tend le bâton.
Non, mais on a, tu sais, les Fennec, on a le cuir dur. Donc
c'est plus la Fennec, là. Moi, je vois un type à chez Menu.
Chez Menu. Attendez bon l'article de vendredi ou de samedi, là.
Encore ?
Mais oui.
Oh non, c'est pas possible.
On a parlé à 94.
Mais non.
Je te jure, ma parole.
C'est un artiste.
Je vous ai dit, hein, ça.
Là, vraiment, ils veulent me terminer.
Il aime les caméras. Il y a un truc.
Non, mais après.
C'était les moulins avant,
c'est ça.
Non, ma grande chance, et je dis pas parce que je suis là, Adil, d'avoir Christophe, d'avoir Adil, d'avoir Gamal, d'avoir Mohamed, j'ai un nombre d'amis incroyables qui m'ont pas lâché, qui m'ont soutenu, et
Bah, vous nous avez rien fait, pourquoi on voulait ça?
Non, mais parce qu'il y en a plein, ils sont sauvés, ils ne me connaissent plus. Il y en a, genre, du bonjour, ils tournent la tête.
Ouais. Moi, vous m'auriez fait ça, je vous aurais tiré un coup de Kalachnikov. Non, je rigole.
M16,
on est en mode. Je rigole, sinon le CSA va me tomber dessus.
Ah oui, oulala. Non, je sais que c'est complètement amical, mais voilà. Non, mais voilà, dans mon malheur, j'ai découvert des gens extraordinaires qui ont continué à me tendre la main, à me faire confiance, à me soutenir. Et si j'avais pas eu ça, j'aurais pu.
Votre famille?
Ah, incroyable, ma femme, mes gosses, mon frère cadet, voilà, mes potes à Orly, le groupe local d'Orly.
C'est l'Assise.
Ouais, d'autres dans le Val-de-Marne. Et d'autres incroyables que je ne connaissais pas ou très peu de vues et qui ont dit, c'est pas possible.
Ils ont dit, collectif, Bouriaki, collectif, Bouriaki.
Il y a un collectif.
Il a trop de nif.
Mohamed Bouriaki, j'ai dit ça.
C'est des juifs, là.
J'ai dit Mohamed Bouriaki.
Moi, c'est beaucoup plus calme.
Il n'y a pas d'article,
tranquille, pépère, musique classique.
Il y a des articles, mais il parle de vous, ce que vous faites dans la culture.
Oui, ça arrive.
C'est un artiste, lui.
Il donne pas de coup de poing, lui.
Ça va, Mohamed Benjebou?
Ça va, mais je suis content d'être avec Gamel. Et avec, vous êtes
le salaud.
Alexandre Benalla et Clo.
Grand coup de justice.
Ravi d'être là, merci.
Bon, allez. Ben justement, tiens, on va démarrer. Tiens, vous me tendez la perche. On va démarrer avec Yannick Jadot. Yannick Jadot qui, justement, a décidé de taper fort, de se faire entendre, de faire entendre sa voix. Il a raison, Yannick Jadot. Il a besoin d'une voix en ce moment, en pleine campagne élection présidentielle. Et il a décidé de parler d'Emmanuel Macron en qualité de président de l'inaction climatique. Écoutons un court extrait.
Monsieur le Président de la République, vous avez incontestablement fait un beau discours. Tout y était. La souveraineté économique, les valeurs de l'Europe, le projet de civilisation, même le climat et la biodiversité. Sauf que, Monsieur le Président de la République, vous présidez la France depuis 5 ans. Et à ce titre, vous êtes comptable d'un bilan pour la France et d'un bilan pour l'Europe. Nous le savons, toutes et tous ici, le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Mégafeux, inondations, sécheresses, canicules, partout sur la planète, partout en Europe, nous sommes percutés dans nos conditions mêmes d'existence. Mais lutter pour le climat n'est pas simplement un impératif de survie. Si l'Europe le décide, une extraordinaire opportunité pour redonner du sens à notre économie.
Voilà, c'était la déclaration d'un long discours devant les députés européens. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui est le président du Conseil européen désormais, donc a été lourdement, vous le savez, interpellé par tout le monde, notamment Yannick Jadot, Bardella, Manon Aubry et d'autres aussi notamment.
Bellamy.
J'espère que Yanis, donc notre réalisateur, va retrouver un petit extrait aussi de la réponse d'Emmanuel Macron, puisqu'on aimerait voir un petit peu ce qu'il répond. Un mot, vous faites partie du même parti.
C'est ça.
Justement, Philippe Nadjib Bouriaki, est-ce qu'il a eu raison de parler comme ça?
Oui, Yannick Jadot a eu vraiment raison de mettre en exergue et en évidence l'inaction climatique de ce gouvernement et bien sûr du président de la République. D'ailleurs, la France a été condamnée sous la mandature de Emmanuel Macron à 2 reprises pour inaction pour le climat. Donc là, c'est pas rien.
Oh, mais c'était pas, il régnait pas un air de campagne quand même. Il n'était pas en campagne là quand il prend la parole. J'ai l'impression que si quand même.
Je veux pas vous faire dans l'angle de bois. Bah, évidemment, on est en pleine campagne électorale et d'ailleurs la réponse d'Emmanuel Macron. Et moi, je salue d'ailleurs la rapidité et la finesse d'esprit d'Emmanuel Macron.
Je reçois un SMS de Jadot qui me dit « Bouriaki, fais attention ».
D'accord. En même temps, je suis suspendu Bouriaki, du parti. Attention. Je suis suspendu du parti, voilà. Donc je peux...
Farkan, dis-lui.
Suspendu par les pieds.
Non, mais il n'y avait pas besoin, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis loyal et j'ai beaucoup d'estime et de respect pour Yannick. Et je l'ai trouvé très bon. Je trouve qu'il est trop linéaire dans son ton. Et alors on en parlait, on aurait dit Jean-Marc Ayrault, alors que il est excellent et il faut qu'il mette plus d'émotion réellement parce que sinon ça fait réciter.
Ouais, robot,
c'est vrai. Et alors qu'il est pas comme ça vraiment, Yannick, il est très bon lorsqu'il est. Mais justement sur les méga-feux, sur les inondations à répétition, sur d'ailleurs la réponse d'Emmanuel Macron, on l'entendra tout à l'heure. j'avais l'impression que c'était Yannick Jadot qui répondait, parce que il a pris tout le programme des écolos, il a dit nous on était contre le glyphosate, contre les traités, le Mercosur, enfin je me dis là on est dans la science-fiction, et ce rebond de balle de ping-pong, Emmanuel Macron, je l'ai trouvé excellent. Blague à part,
ouais.
Grand démago, et d'ailleurs Bellamy juste après lui dit vous êtes un menteur en bande organisée. J'ai trouvé violent l'intervention de Bellamy et de
deuxième
et de Bardella.
SMS, tu peux aller avec Macron.
non, je suis un écologiste pragmatique. Quand quelqu'un a été bon dans un exercice, il faut le dire, même s'il n'a pas été sincère. Quand tu connais pas l'historique et que t'écoutes Macron, tu dis c'est un écolo. Quand tu connais l'historique, tu sais que Jadot a vraiment pointé le doigt où il fallait pour dire que c'est un mauvais bilan et un mauvais mandat.
Allez, on fait un tour de table justement. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en avez pensé justement? Est-ce qu'il n'était pas en pleine campagne? Est-ce que c'est pas un air, pas en campagne, mais un air de campagne présidentielle, justement au Parlement européen? Est-ce qu'il a eu raison de, évidemment, d'interpeller le chef de l'État, Emmanuel Macron, de la sorte? Ou est-ce que, véritablement, vous adhérez?
Adhérer, ça c'est un autre débat, mais il est en campagne, évidemment, comme tout le monde, ce qui est normal. Ensuite, il est surtout en campagne au Parlement européen, donc il ne parle pas seulement à Macron, il parle à l'Europe, hein, ce qui est très intelligent de sa part. J'ai envie de dire que bon, Macron est un très très bon communicant, indiscutablement, ce qui explique ses 25% dans les sondages. Il baisse, il remonte immédiatement, bref. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que moi, je suis un écologiste dans l'âme. C'est-à-dire que je suis pour le combat écologiste, je veux que ça se transforme en gain et en bénéfice en termes économiques et en termes capitalistiques, si on peut transformer le capital en autre chose que cette horreur. Mais surtout, j'ai envie de dire que, et là je le déplore, il y a des gens excellents chez les écolos. Malheureusement, je trouve que Jadot, effectivement, a un ton monocorde. Il nous fait un inventaire à la Prévert. Il explique tout un tas de choses que personne ne va entendre parce qu'effectivement, il y a un risque.
Mais quand il dit vous êtes un climato-arrogant.
Mais non, pas arrogant, c'est pas le terme qu'il utilisait.
C'est si, c'est ça?
Inactif.
Arrangeant.
On est d'accord.
Excusez-moi, voilà. Arrangeant.
Il compose. Alors après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que moi, ce que je reprocherais aux Verts, bien que les questions de société soient importantes ou les questions internationales, c'est d'attaquer la Chine comme il l'a fait, c'était inutile. Parce que là, malheureusement, bah, c'est un monstre le chinois. Pas rien y faire, monstre économique, je veux dire. Quand il dit qu'il y a des génocides chez les Ouïghours, c'est pareil. On peut en discuter parce que c'est une propagande malheureusement menée. Les Chinois sont. Ils font pas de cadeaux aux Ouïghours, c'est vrai, mais il n'y a pas de génocide. Le génocide, c'est un terme très précis.
Mais ils font pas de cadeaux.
Non, ils font pas de cadeaux. Ils font pas de cadeaux aux minorités qui font barrage à leur grand projet économique. Mais on peut pas dire génocide. Le terme est extrêmement connoté et je n'aime pas parce que là, malheureusement, ils se trompent de combat.
Il n'est pas d'accord, Philippe Nadji-Boriaki.
Le génocide, c'est acté. L'enquête qui a été conduite par des gens très orientés politiquement. On fait référence au fils Glucksmann, à Raphaël Glucksmann, qui est un néoconservateur américain. Les différentes témoignages sur les Ouïghours sont orientés politiquement. C'est un think tank américain bouchien, des gens de bouche, hein, je parle, qui sont à l'origine de ça. C'est clairement l'anti-chinois. Ça veut pas dire que les Chinois sont gentils, hein, je dis pas ça.
Ça veut pas dire que les Ouïghours sont pas discriminés. Hein.
Non, c'est pas qu'ils sont réprimés.
Ouais.
Mais ils ne sont pas génocidés.
Il vous a répondu, il a dit concentration.
Oui, ils sont réprimés. C'est pas génocide.
Même si c'est pas le sujet, on va rester.
On joue peut-être sur les mots, parce que quand tu stérilises des millions de femmes.
C'est un mensonge.
Bah si, bah non.
Non, mais je te dis la vérité. Ils stérilisent, c'est la politique d'enfant unique. Les femmes qui ont deux enfants dans toute la Chine sont stérilisées. Sauf qu'on a mis la focale sur les Ouïghours. Non, c'est une politique chinoise générale.
Elles n'ont même pas un enfant. Il y a des camps de concentration, des travaux forcés sur les Ouïghours. Il y a des prélèvements d'organes sur des êtres humains.
Encore une fois, je vous invite à faire des recherches. Vous allez être hallucinés quand vous verrez les sources. Ce qui est important, ce n'est pas tellement ça. Le terme génocide, c'est ça qui pose problème. Qu'il les maltraite, c'est indiscutable. Oh, bah, je ne vais pas commencer à faire la politique de la Chine. Ils le font avec toutes les minorités. On l'a vu ce qui s'est passé avec la Chine, les au Tibet ou autre.
Moi, je l'ai trouvé courageux.
Le fait que l'inspiration de Raphaël Glucksmann soit une mauvaise source ou une source pas recommandable ne rend pas les informations, ces informations-là totalement fausses.
Non, toutes les informations viennent d'eux. Hein. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Bah, vous allez voir la source, vous allez halluciner.
Bah, le reportage d'envoyé spécial, il est édifiant.
Après, il y a un courant qui se greffe là-dessus. Mais la base, c'est un Allemand qui est à l'origine de ça. Mais ça rentre dans le débat, parce que c'est un peu long. Hein, si on va pas faire
le débat total. C'est pas le sujet.
Quand Jadot s'exprime sur les questions climatiques, il a raison. On ne discute même pas. Quand il dit que Macron n'a rien fait, il a raison, puisqu'il a même viré le seul type qui était plus ou moins. Bon, maintenant, il a des problèmes par rapport à des questions de mœurs. Le seul type qui était dans ce gouvernement qui était censé être écologique a dû jeter l'éponge. Donc ça, c'est des réalités. Macron est un ultralibéral. L'ultralibéralisme se fiche complètement de la nature et de l'écologie. Ça n'est pas rentable. Et comme je le dis régulièrement, c'est un terme qui...
Ça peut l'être?
Non, ça peut l'être, mais ça n'est pas aujourd'hui parce que c'est des investissements lourds. faut être très clair, et je le dis, c'est juste une phrase qui est très forte que j'ai utilisée une fois, on a rigolé, mais ça a du sens. Je dis que la vie, l'être humain, donc le vivant, n'est pas rentable économiquement. Parce que quelqu'un qui vieillit devient cher, il coûte à la société. Ouais. Sauf que l'humanité dans le sens noble du terme, se doit de protéger les faibles, et je dis qu'un État fort protège les faibles. En l'occurrence, M. Macron ne protège pas les faibles.
Aïe, 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 Mohamed Benjebourg. Ben ça moi, y va fort, hein.
Ben moi, je trouve qu'il a été malin, notre ami Jadot, d'utiliser le Parlement européen comme plateforme. Mmh. C'est pas si souvent qu'il nous offre comme ça des coups d'éclat. J'en parlais tout à l'heure avec un ex-membre des écolos qui n'aura pas ce qu'on a dit, mais. C'est vrai que moi il me fait plutôt, il est très lisse Jadot, et il fait plutôt penser.
C'est ce qu'il dit, un ton conciliant, certains disent un ton conciliant.
Il a raison.
Ouais. Non mais sur le fond, on est tous d'accord avec lui, mais c'est vrai qu'il est très lisse. Et moi il me fait beaucoup penser à Jean-Marc Ayrault, à Olivier Faure, tous ces grands hommes politiques dont seule la mère se souviendra.
La mère,
se souviendra. parce que je trouve qu'il est lisse et plat comme pas possible, et que donc je suis ravi. Que je suis content pour lui qu'il fasse un peu parler de lui. Sur le fond, en plus, on est plutôt d'accord avec lui. Et on peut pas contester le fait que Emmanuel Macron, le président de la République, a un discours exceptionnel sur un certain nombre de sujets, un discours auquel tout le monde adhérait sur un certain nombre de sujets, notamment le climat, mais que dans les actes, c'est autre chose.
On revient justement en parler, on va juste marquer la première. J'ai une petite question, Mohamed Benjebourg.
Oui, dites-moi.
Pourquoi vous avez deux masques?
Ah, j'en ai deux. Ah, j'avais pas vu que j'en avais un.
Il y en a un blanc, il y en a un bleu. Vous avez vu?
J'ai un backup.
Le mec a mis deux masques.
Il a fait un crédit, le banquier lui dit je veux que tu aies deux masques.
Bah, pareil, il a mis deux masques. Chers amis auditeurs, FPP2 et le
chirurgical.
Alors, Mohamed Benjour et Benjebo, il est exceptionnel.
Non, mais moi, je me.
01 53 48 3000, venez réagir, venez témoigner, venez commenter avec nous les sujets d'actu.
Les informés reviennent dans un instant.
Salut à tous, c'est Bilal Nedman. Retrouvez-nous dans Tam Sport du lundi au vendredi, 20h-21h, pour toute l'actualité sportive.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurFM. BeurFM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h24, je vous attends, le standard est ouvert, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
La parole, vous le savez, elle vous attend. Je vous attends au 01 53 48 3000. Je vous attends ici même au standard 01 53 48 3000. Venez évidemment nous donner votre sentiment sur ce qui se passe, notamment sur l'ambiance au Parlement européen. On va écouter la réponse et le retour d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui répond à Yannick Jadot. Et je vous poserai la question, finalement, est-ce que ce n'est pas une mise en scène dénoncée? C'est ce que posent les internautes comme question. Écoutons.
Très précis sur les sujets. La mobilisation générale, on est tous d'accord. Mais la mobilisation générale, c'est un slogan. Il faut ensuite rentrer dans le détail. J'aurais voulu la mobilisation générale de tous les Européens quand, en 2018, la France a porté un agenda ambitieux sur le glyphosate. Nous avons été peu suivis, y compris par des gouvernements où les forces politiques que vous représentez étaient aux responsabilités. Je me félicite que nous ayons tous adhéré en fin d'année dernière à la neutralité carbone. Nous étions trois au début, y compris contre des gouvernements où il y avait les forces politiques que vous représentez. Nous étions, je crois, 8 ou 10 à Sibiu, je m'en rappelle encore, et nous avons fini par convaincre tout le monde. La France a été aux avant-postes de cette stratégie. Vous ne pouvez pas le nier parce que vous mentiriez.
Bon, c'était un petit extrait, donc justement, il est fort. Hein,
il est extraordinaire. T'as vu l'aplomb? Non, mais parce que hormis les Allemands.
Lui aussi, il a droit à une clochette.
Ah oui.
Ah non, mais il a le droit.
Non, mais
il est bon.
Il est bon. Mais il faut dire la vérité, il est bon. Écoute, il n'y a pas une cohésion.
Jamal Amina a dit de quelqu'un d'extrêmement communicant.
Oui, c'est très bon communicant. Mais oui, parce que.
Très bon communicant.
Vous savez, si vous avez lu un bouquin.
Et je vous attends au 01 543 48 3000. Exactement.
Il est exceptionnel parce qu'il balance une vérité, sa vérité, qui n'est pas vérifiable instantanément, on va pas tout se précipiter pour vérifier les années. Alors, c'est une vérité qui est une contre-vérité, pour pas dire mensonge, mais comment voulez-vous convaincre des gens avec un tel aplomb qu'ils mentent? Et en plus, pour valider ce qu'il raconte, il dit, vous ne pouvez pas dire le contraire, sinon vous mentez. Donc, c'est-à-dire qu'il est déjà il a avalé toutes les possibilités d'opposition.
Ça tacle, hein.
Ça, ouais, très bien. Très fort. C'est normal aussi, attends.
Messieurs, nous allons passer au second sujet.
Schopenhauer, quoi.
Ouais, exactement.
Mais je voudrais juste dire qu'il y avait aucun gouvernement où il y avait des écolos au power. Lorsqu'on parlait de l'Autriche et de l'Allemagne tout récemment, donc ça n'a rien à voir.
Je veux juste te dire que c'est un peu une partie de ping-pong, Adil, parce que c'est aussi l'occasion pour Macron que de remettre les pendules à l'heure à sa manière hein, et avec sa vérité sur ce sujet-là.
Ouais. Ça va, vous êtes dans mon salon là, ça va.
Tranquille le salon,
je sais d'aller. Il est dans son petit salon là, ça va. Vous dérange
pas. Il faut vivement la vidéo.
Il est chez lui.
Faut le voir les amis auditeurs comment il est installé.
Allongé, il ne fait pas croire aux auditeurs que je suis allongé.
Vous savez qu'il est chez le psy.
Adil, chaussette grise, on a vu la même chose.
Allez, tout de suite, second sujet, c'est parti. Vous savez quoi, Anne Montebourg, qui a décidé de retirer sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, c'est vrai. Ah, bon, on va tenter de décrypter les raisons pour lesquelles, ou tenter de comprendre en tout cas, cette annonce qui, évidemment, arrive à un moment stratégique et précis. Gamal Abina.
Bah, c'est simple, il faut être très clair. Bon, la course aux déclarations était tellement ridicule qu'à l'arrivée, quand on voit les scores estimés, puisque ce sont les sondages...
Mais surtout, les idées n'ont pas été retenues.
Mais il n'y a pas d'idées. Ils sont vides. Le problème de la gauche, c'est que ça fait à peu près 30 ans qu'il n'y a plus d'idées. Et le problème de Montebourg, c'est qu'il est arrivé comme tout le monde, comme Clopin Colpan, j'y vais. Et il commence par une sortie assez désastreuse avec l'histoire des transferts de fonds algériens en Algérie, alors que monsieur se vantait toujours d'avoir un grand-père ou une grand-mère algérienne. Il sort un truc clairement d'extrême droite, qui est quand même gravissime. Donc Montebourg, il ne savait rien, c'est à Lièvre. Il y a tout un tas de Lièvres comme ça qu'on voit commencer à se dépantalonner. Celle qui s'est le plus plantée en vérité, c'est Madame Hidalgo. Ouais. Au lieu de rester tranquille, d'attendre patiemment, ça lui a tellement rongé le frein qu'elle s'est dit, je vais y aller quand même. Elle s'est plantée, elle tourne à 5% maximum dans les sondages. La gauche atomisée est inexistante et le peu de gauche unique qui va exister, à part les Verts qui tiennent encore un peu la route et évidemment les deux grandes figures de la gauche maintenant,
c'est les Verts
justement et Mélenchon. C'est les deux qui tiennent la route. Malheureusement, ils se partagent le même gâteau, ce qui fait que ça divise les forces de gauche et il n'y aura pas de victoire de gauche.
Philippe Nadji Bouriaki.
Alors,
Arnaud Montebourg.
Si son retrait est sincère, j'ai envie de dire, quel panache, respect monsieur. Non, mais sérieusement, quel panache, respect, il met son ego de côté, etc. Maintenant, on sait qu'une campagne électorale, ça coûte un petit peu de pépette. On sait qu'il y a eu des discussions avec Taubira pour absorber les comptes de campagne d'Arnaud Montebourg et elle a dit non, merci, parce que c'est pas possible. Ça va me les plomber, tes comptes de campagne. Et donc, par conséquent, c'est pour ça que tu entends qu'il dit, moi, en gros, je me retire, mais je vais soutenir personne et je vais pas participer à cette mascarade. Alors que c'est pas sa démarche, il y a quelques temps, où il a pris le téléphone, où il a appelé tout le monde.
Bah oui.
Et il a orchestré, et d'ailleurs.
C'était assez ridicule,
demain. Ouais, c'était une mise en scène.
Ouais, c'était une mise en scène, mais non, mais en fin de compte, non, oui, c'était une mise en scène, mais il voulait vraiment que ça soit que, il pensait pas que ça allait venir comme un boomerang, mais jeter une balle dans chaque jardin en disant, moi, j'ai fait la démarche.
Est-ce que c'est pas en quelque sorte, je vous pose la question, après, je vais faire le tour de table. C'est-à-dire qu'il s'est fait un peu humilier. Il a le ralliement échec, ses idées échec, rassemblement échec sur échec.
Primaire avec Hidalgo échec.
Mohamed Benjibo.
Il a fait un constat.
Mais justement, je vais refaire un tour de table. Je vais juste écouter Mohamed Benjibo.
Je crois qu'il y avait une frange du Parti Socialiste qui pensait que lui avait ses chances et puis il avait un entourage, des entourages.
C'est ça, surtout avec Taubira.
Depuis plusieurs années. Et puis il aurait pu faire effectivement un ticket avec Taubira, mais c'est vrai qu'avec Montebourg, c'est comme d'habitude, on passe de la remontada, on démarre la remontada, on finit à la descendata et on est passé par l'extravaganza. Non, mais vraiment.
Et des granolas aussi.
Et des granolas, ouais. Et non, ce qui est un peu terrible, Gamal le disait, c'est l'état de la gauche aujourd'hui. Comme l'a dit Ben Khaldoun pour les Arabes, les gens de gauche se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Et donc, ils sont éparpillés façon puzzle. Et c'est un peu dommage pour la démocratie et pour le débat républicain qui s'annonce dans le cadre de la présidentielle.
Dommage pour qui ? Dommage pour lui ou dommage pour les
Dommage pour la démocratie, pour le débat, sans être partisan.
Je reviendrai vous justement parce que j'ai pas oublié la question que je vous ai posée justement, le ralliement, tout ça. Est-ce que c'est pas justement l'enchaînement de tous ces échecs, cuisants, qui font qu'à un moment donné, il veut sauver sa dignité ? C'est aussi ça, Arnaud Montebourg. Je poserai la question. 19h30, le quoi de neuf ?
Les informés, le quad neuf.
Le quad neuf, vous le savez, comme chaque mercredi, eh bien c'est avec le docteur Majid Seoussine. Bonsoir mon cher docteur.
Bonsoir Adil.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aux Invalides chez les militaires et au SAMU en tant que responsable. Mon cher docteur, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur à quoi précisément aujourd'hui ?
Eh bien écoutez mon cher Adil, cette semaine, c'est la catastrophe.
Ah !
On apprend que nos deux candidats issus de la diversité à la présidentielle vont mal. Tout d'abord, Ahmed Montebourg, dont la mère est algérienne.
Clochette, il a droit à une cloche. Non mais ça va pas ou quoi ?
dont la mère est algérienne, se retire faute d'avoir réussi à enthousiasmer les foules.
Ouais.
Puis Monsieur Z, mon cousin berbère, est condamné encore une fois pour injure à caractère raciste.
Heureusement qu'il n'est pas noir, sinon il aurait fini comme Dieudonné. Et que dire du prix de l'essence qui atteint des sommets, qui dépasse les valeurs qui avaient.
Ça m'a choqué, ouais, effectivement.
On atteint les valeurs qui avaient mis les gilets jaunes dehors.
Ouais.
Ça va freiner le débat politique avec tous ces candidats qui vont devoir investir des sommes énormes pour pouvoir faire campagne, car l'essence qu'ils jettent sur le feu est souvent leur seul argent. Déjà, Valérie Pécresse s'est calmée. Elle n'a pas prononcé une seule fois le mot islamisation cette semaine.
C'est vrai, elle est toute douce.
Même chez Bourdin, hier. Mais il faut dire qu'hier, elle avait l'air un peu crispée, tellement elle avait peur qu'il lui saute dos au cou en lui
disant. Ah, facile, docteur. Facile.
J'obtiens toujours ce que je veux.
Parce que quand même, et vous allez me corriger si je me trompe, facile.
Oui.
C'est vrai quand même que ces journalistes, c'est pas des grands séducteurs. Hein. Ils font pas dans la poésie, dans le bouquet de fleurs, au niveau drague. Au niveau drague, ils sont plutôt restés au niveau des cavernes, quoi.
Voilà ce que je vous renvoie.
C'est
un... voilà ce que je vous renvoie,
vous
docteur.
Vous allez voir ce que je vous renvoie, mon cher. C'est à se demander ce qu'on leur apprend dans l'école de journalisme. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez nous en dire un petit mot, Adil.
Oui, bah, moi, à l'école de journalisme, ça s'est très bien passé.
À propos, dites-moi, Adil, où est-ce qu'on est votre petite affaire avec cette stagiaire, vraiment?
Oh là 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 là.
Le dossier.
J'adore.
Petite stagiaire, Lina.
J'adore.
À propos de séducteurs, il y en a un qui a eu quelques problèmes cette semaine. C'est vrai qu'il casse bien son jeu avec son ton de publicité pour suppositoire quand il s'exprime. Mais Jean-Louis Blanquer vient de convoler en juste noces avec une journaliste.
Oui.
Et c'est probablement son voyage de noces à Ibiza qui va lui coûter un peu plus cher que prévu.
Ah, ça c'est sûr.
Mais c'est pas tous les jours qu'on se marie. A posteriori, on comprend un peu mieux toutes les incohérences dans les protocoles sanitaires à l'école.
Oh, facile.
Bah écoutez, car visiblement, il les écrit sous acide. Après une seule soirée dans un beach club. Parce que quand même, 19 modifications des règles en 2 ans, c'est quand même pas mal. Hein.
Il est en forme, hein, docteur.
Ça nous le rend tout de même un peu plus touchant. Un peu comme quand il s'essayait à la gymnastique en blouson dans une cour de récréation d'une école primaire et qu'il était à 2 doigts de craquer la couture de son pantalon chaque fois qu'il se
pliait. Tu auras des problèmes.
J'ai eu de gros problèmes, moi, à cause de vous.
C'est affirmé, là.
Je vais me faire rappeler à l'ordre, vous allez voir, docteur. Vous serez heureux si je me fais virer.
Avec plaisir.
Je me fais virer. Oui, avec plaisir.
Ça, t'as un peu aidé.
Vous me direz, Adil, c'est pas pire que Boris Johnson qui dansait sur la grande table du 10 Downing Street, la cravate club nouée autour du cou, avec les membres de son cabinet en état d'alcoolisation avancée, y compris quand la Grande-Bretagne était confinée ou en deuil après le décès de l'époux de la reine Elisabeth II. Estimons-nous donc heureux et soyons indulgents avec ce pauvre Blanquer, à qui l'on pourrait reprocher beaucoup d'autres choses que quelques jours à Ibiza, en plein hiver, à l'époque où tous les autres opérateurs bradent leur prix parce que c'est le moment où tout le monde va à Dubaï.
Vous m'avez perdu, exactement, il est fou ce docteur.
Ce même Blanquer à qui, pour ma part, je dis merci tout de même pour ce qu'il a fait pour les enfants des écoles des quartiers populaires.
C'est vrai.
Ce que personne n'avait jamais fait avant lui, socialiste y compris.
Ouais.
C'est vrai.
Très juste.
Bravo, docteur.
À votre service.
Quelle unanimité, docteur. Hein.
Bravo.
Ah là là.
Vous expliquerez quand même un jour pour cette stagiaire. Hein.
Je vous expliquerai.
On veut des dossiers.
Vous allez nous rester fidèles parce que vous allez finir dans une autre station, vous, avec votre écriture, là.
Ah bah écoutez,
je pense au service public, moi.
On est au service public, non. Vous savez bien que les gens avec notre profil ne les intéressent pas.
Dites pas ça.
On en parlait en off tout à l'heure.
Il y a zéro diversité. D'ailleurs, je voulais faire une remarque. J'ai un SMS de mon oncle Abdel à Aulnay-sous-Bois qui me dit il y a que des moustaches sur votre plateau et qui se plaint de l'absence de parité.
J'ai sollicité beaucoup de femmes et à cette heure-ci, elles ne sont pas disponibles. Mais cela dit, dès là dans les jours à venir, voilà, pas mal de évidemment débatteurs, influenceuses, ça se dit pas, je crois pas, influenceurs.
Si, influenceuses.
Je crois qu'on dit plutôt influenceurs, non?
Non, mais on féminise tout maintenant.
On féminise tout, d'accord. Bon, voilà, qui seront là parmi nous. Docteur Majid Seoussine, merci.
À votre service.
Merci.
Franchement, bravo. À la semaine prochaine, sans faute.
Sans aucune faute.
19h36, nous allons marquer la dernière pause pub et on se retrouve justement avec le dernier sujet, le port du voile lors de la compétition sportive interdite de nouveau par les sénateurs. Que pensez-vous? Est-ce que la question du port du voile revient de nouveau sur le débat? On en parle, je vous attends au standard 01 53 48 3000, j'aimerais vous entendre.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h40, évidemment. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dernière ligne droite dans les informés avec Philippe Nadjibouriaki, avec Gamal Abina et enfin avec Mohamed Benjebour.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face continue et quand je dis qu'il n'y a pas de femmes, c'est que je disais, attention, il faut bien me comprendre. Les femmes que j'ai contactées n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Le port du voile lors d'une compétition sportive. Les élus ont voté un amendement à la proposition de loi sur le sport. Elles avaient déjà été adoptées. Alors, messieurs, c'est que le problème, c'est qu'on insiste évidemment sur cette loi. Cette loi, les sénateurs l'ont voté de nouveau. Interdire le voile, c'est très clair, lors des compétitions sportives. Sauf que la ministre des Sports, elle dit, je suis opposé. Alors, comment peut-on interpréter tout cela? Et je vous attends au 01 53 48 3000 aussi. Gamal Abina.
Simplement un retour encore obsessionnel de ces histoires de voiles qui sont ridicules.
Ah, vous pensez?
Oui,
c'est pas du conspirationnisme.
Non, pas du tout, non.
Je pose la question.
Il y a une très longue tradition néocoloniale qui existe en Algérie à l'époque du dévoilement des filles en 56. Le fait de dire, nous sommes là pour vous civiliser, nous apportons une lumière, acceptez-la. Mais le problème de cette histoire de voile, c'est que c'est l'arabe qui cache la forêt. Je vais faire un jeu de mots.
Oh, pas mal.
Bravo.
Pourquoi? Simplement parce que l'idée selon laquelle une femme arabe doit avoir, une femme arabe ou musulmane doit avoir une tenue réglementée, on parle de réglementation de la tenue vestimentaire, est une idée qui est très, très, très méprisante vis-à-vis de la population et surtout qui donne le sentiment qu'on vous éduque. Alors, ils n'ont pas cherché à éduquer la population, ils les ont parqués dans des cités, mais en revanche, pour la tenue vestimentaire, une fois qu'on nous a parqués dans des cités, eh bien, on leur reproche d'avoir finalement adopté des codes du seul courant qui s'intéressait à eux, à savoir le courant islamique et islamiste. Donc, aujourd'hui, quand on ressort de la naftaline cette histoire de voile, et ça devait arriver, c'est absolument pas, il n'y a aucune surprise là-dedans. C'est une façon de détourner des vraies questions. Et moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Le jour.
Allons-y.
Alors, je vais très, très trash, mais il faut que je le dise. Le jour où ces imbéciles qui nous gouvernent vont accepter.
Il a droit de clochette, lui.
Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci. Quand j'ai imbécile, je vais motiver mon explication. Ces imbéciles qui nous gouvernent vont accepter l'idée qu'il va falloir régler les questions économiques une bonne fois pour toutes, augmenter la capacité à créer la richesse sur le territoire pour augmenter la capacité à générer l'impôt et donc à redistribuer, ce jour-là, on pourra parler de voile. Mais aujourd'hui, on préfère parler de choses aussi insignifiantes que le voile quand il y a quasiment tous les deux jours un paysan qui se suicide.
La ministre des Sports a donné un avis défavorable.
Ce qui est normal, parce que c'est quelqu'un humain.
Mohamed Benjibour.
Pour contredire un peu Gamal.
Et je vous attends 01 53 48 3000.
Je ne pense pas qu'il soit imbécile. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils sont plutôt incapables de faire ce que décrivait Gamal, c'est-à-dire de faire en sorte que la richesse nationale se développe et profite à tout le monde. Moi, je crois que cette affaire, elle arrive à point nommé.
Qu'est-ce qu'elle reflète? Moi, c'est pas l'amendement qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle reflète, cette affaire-là? C'est-à-dire, comme dit Gamal Abina, est-ce qu'il y a une fixette sur un sujet de notre société, un truc, voilà, l'islam, etc. Moi, c'est ça. Ce que je veux, c'est qu'on décrypte, évidemment. Je sais bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent.
Ça faisait longtemps.
Et en filigrane, je veux qu'on décrypte la chose.
Ça faisait longtemps. On était occupé par le Covid.
Bien sûr.
Le Covid, là, tout d'un coup, la létalité, les courbes de létalité sont en train de plonger. Donc, il faut occuper le terrain. C'est une façon pour certains élus de faire. On débute la campagne présidentielle, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Et c'est une façon pour les élus de faire entendre leur voix, de faire parler, et puis d'agiter un peu des sujets qui vont profiter à tel ou tel candidat. Voilà, tout simplement. Et ça reviendra tout le temps, monsieur Farkan. Faut pas s'attendre à ce que ça, un jour, ça s'arrête.
Non, c'est une question. Évidemment, c'est des sujets qui sont
marronniers. Marronnier.
Sauf que, oui.
Marronniers, exactement.
Philippe Nadjibouriaki.
Écoutez, l'islam, les musulmans.
Mais c'est pas, à un moment, je vous poserai la question, je vous écoute.
L'islam, les musulmans, le voile, les mosquées, c'est un bel épouvantail. Mmh. Dès qu'on n'a pas d'actu, dès qu'on n'a rien à dire, on rebalance ça et tout de suite, ça part sur la polémique, etc. Bon, vous avez bien remarqué qu'au Sénat, c'est une forte majorité de droite LR. Vous avez remarqué que la candidate des LR. et encore, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense l'UDI, mais en tout cas, la candidate DLR, c'est Valérie Pécresse, qui a pris comme bras droit Éric Ciotti, qui est en train de chasser deux points chez Zemmour, un point chez Le Pen pour être au deuxième tour, et je pense que Valérie Pécresse au deuxième tour face à Macron, eh ben, elle gagne, parce qu'entre deux néolibéraux, eh ben, nous, enfin, le peuple de gauche des écologistes, on va dire, vous allez vous débrouiller, nous, on va pas choisir entre la droite et la droite. Et comme elle a un discours d'un Roland un petit peu sur son extrême, elle dragoune, voilà, elle a une réserve de voix que Emmanuel Macron n'a pas, qu'il a que si il est en face de l'extrême droite. C'est un bon coup politique pour faire parler de la candidate, la remettre en selle et faire en sorte qu'elle dépasse Marine Le Pen et pour être au deuxième tour en face à Marine Le Pen.
Ah, moi, donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là par rapport à la possibilité que Pécresse soit au second tour. C'est une possibilité, effectivement, mais sa victoire est impossible.
Ah, pourquoi ?
Parce que simplement, Macron a un socle électoral qui est extrêmement solide.
Il y a 25.
25, c'est énorme. C'est le numéro 1, il est à 7-8 points devant tout le monde. Et surtout parce que Macron.
Il a des réserves, vous avez
non, il a des réserves. Non, il a des réserves. C'est des réserves parce qu'il.
Ça dépend.
C'est un homme extrêmement intelligent. Il est capable de dire un discours de gauche ou d'écolo, on vient de le voir, pour séduire les gens qui ont une courte mémoire. C'est pas des gens qui ont une mémoire longue.
Oui, les mémoires flash.
Voilà. D'accord. Alors que malheureusement, Pécresse, elle a un discours, de façon qui est complètement inexistant. Elle n'est pas très, très maligne, malheureusement.
Elle était mauvaise hier.
Ben, elle est mauvaise en général.
Non, mais sur
moi, j'ai eu l'occasion d'avoir son meeting. Oui, mais surtout, elle est mauvaise. C'est quelqu'un qui vous parle de choses périphériques comme le voile ou je ne sais où, le burkini, alors qu'elle devrait être, elle, à droite, nous parler d'autres choses. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ça. Que le second tour soit macronien.
Moi, ce qui m'inquiète, attendez, moi, je poserai quand même la question. Est-ce que c'est une obsession,
hein? C'est une obsession. C'est l'obsession qui est le principe du bouc émissaire.
Certains vous diront même, d'ailleurs, quand on peut lire sur les réseaux sociaux, certains parlent même d'islamophobie.
Non, mais c'en est une, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on appelle
islamophobie? C'est vendeur, c'est pareil.
Mais il faut comprendre une chose importante. Je tiens à rappeler une chose importante. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les sénateurs valident ça aujourd'hui. Parce que jusqu'à maintenant, le Sénat, c'est une sorte de caisse de résonance de gens sages. On les appelait des sages. Et aujourd'hui, ils vont dans la direction de cette espèce de truc crapeux crasse qu'on appelle, c'est du racisme déguisé et l'islamophobie. Et donc, effectivement, cette droitisation extrême des positions, cette radicalisation, on parle beaucoup de radicalisation, aujourd'hui est actée. La lepenisation est en marche.
Il faut pas oublier qu'en 2023, il y a un renouvellement de moitié des sénateurs. Donc eux aussi sont en campagne électorale, les sénateurs.
Absolument.
Ils sont non seulement en campagne électorale, Adil, que le Sénat n'est pas macronien du tout.
Absolument.
Mais comme on l'a vu, les Républicains est plutôt républicain. Et comme on l'a vu, les Républicains sont en train de draguer les voix, d'essayer de conserver les voix d'Éric Ciotti et de tout cet électorat.
Oui, justement. Et je veux refaire un tour de table. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que ces femmes, justement, qui portent le voile et qui font du sport et qui considèrent qu'il n'y a aucun signe, évidemment, ostentatoire et qui disent clairement vivre une injustice? Parce que je vais vous rappeler quand même une chose, c'est que le règlement international de la FIFA, lui, le permet. Gamal Abina.
Bah déjà,
alors, deux poids, deux mesures.
Oui, bien évidemment.
D'un côté, on permet. De l'autre, on interdit. Et puis de l'autre, une injustice que vivent ces femmes.
D'abord, il n'y a pas de base légale. On commence par le début. Vous n'allez pas voter, c'est pas parlementaire, c'est du n'importe quoi. Ensuite et surtout, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Je tiens vraiment à attirer l'attention de tout le monde, de tout le public qui nous écoute sur ça. Je dis et répète que nous sommes faibles. Je parle des arabo-musulmans de France et des étrangers en général. En Allemagne, dans les années 30, ils étaient 1% de la population. Et la stratégie du bouc émissaire a fait qu'ils ont été torturés, massacrés, déportés. On dira tout ce qu'on voudra de ces juifs allemands qui ont pris très cher, alors qu'ils n'étaient que 1%, ils ne pesaient rien dans l'économie nationale allemande, mais on a fait croire que c'était eux le problème. En France, nous correspondons en gros entre 5 et 10%, et encore une fois, nous sommes très faibles. Et ce qui se passe, c'est que, ce que je dis toujours aux politiques quand je suis en face de moi.
Quand vous dites ça?
On y arrive, justement. Je dis, vous êtes des lâches. Je parle des politiques qui attaquent. Parce que vous tapez sur quoi? Sur une femme qui est faible, qui est d'origine étrangère, qui est racisé, qui est visible par son signe distinctif qui est le voile, dont vous tapez sur une femme, vous êtes des lâches. Et ça, c'est une chose importante, parce qu'ils tapent sur les gens faibles, alors qu'ils ne veulent pas taper, et je vais taper sur les forts. Et les forts, c'est qui? La crise économique 2008, Wall Street. La crise de 29, Wall Street. À chaque fois, celui qui détruit le monde et l'économie, c'est les États-Unis. Mais bizarrement, il n'y a pas un politique qui va critiquer le système de financiarisation et de destruction de l'économie par ces gens-là. Parce qu'il vaut mieux taper sur quelqu'un de faible, qui n'a personne pour les aider, que quelqu'un de fort qui tient toute l'économie.
Philippe Nadji Bouyaki, il n'a pas l'air d'accord.
Non, mais partiellement. Mais non, j'ai envie de dire, je suis même très d'accord avec Gamal, en vérité.
D'accord,
au contraire.
D'accord, okay,
ouais. Mais là où j'irai encore plus loin, si Gamal le permet, avec sous sa bienveillance, t'as vu. Non, mais moi, j'aime beaucoup Gamal, parce que c'est un vrai géopolitologue, c'est un vrai historien, et quand il te développe, il va toujours à la racine. et t'apprends énormément. Et comme moi je suis dyslexique, je n'ai jamais appris par les livres, c'est beaucoup d'audio et beaucoup de visuel. Et quand je suis auprès de Gaman,
et on apprend comme ça aussi.
Franchement, je dis pas ça pour le flatter, c'est l'admiration, la fascination que j'ai pour lui, parce que j'apprends et je me sens plus intelligent quand je
regarde. On l'apprend aussi avec Philippe, débat. Bah, je vous rassure.
Mais ce que je veux dire,
c'est sympa, c'est sympa.
Mais réellement, on beaucoup écrit.
Ils sont forts parce qu'ils tapent sur des faibles, parce que nous sommes faibles, nous sommes pas structurés, nous sommes pas organisés, et dès que l'un d'entre nous commence à émerger,
c'est qui nous?
Nous, la communauté étrangère.
D'accord.
Okay. Évidemment, il a raison.
Les racisés, quoi.
Les franco-maghrébins, les franco-arabes, les franco-africains.
D'accord, les franco-africains.
Tout à fait, les franco-africains. Si nous étions soudés tous ensemble, pas contre qui que ce soit, mais pour dire que nous sommes aussi français, et en tant que français, moi souvent on me dit ouais, des fois tu fais du communautarisme. Je dis non, je soutiens, c'est vrai, plus facilement quelqu'un qui a le même parcours que moi, qui me ressent, parce que je sais les difficultés et la problématique. Moi, dans ma vie, j'ai eu une chance incroyable. C'est à un moment donné d'une maman qui a décidé de dire tu t'appelles plus Najim, mais tu vas t'appeler Philippe aux yeux de l'administration. Et honnêtement, ça m'a permis d'avoir plein de portes qui sont ouvertes. Si je vous l'ai dit, si moi j'avais envoyé des CV au nom de Nadji qui étaient meilleurs que ceux de Philippe, Nadji n'a jamais eu de réponse. Et c'est une réalité, c'est pas de faire la victimisation et pleurer. C'est la réalité. Aujourd'hui, moi, si je me fais boxer d'une manière claire, nette et précise, c'est effectivement, nous n'avons pas les mêmes codes que les bobos parisiens, qui considèrent que quand on les interpelle ou quand on leur parle de la façon dont ils s'expriment, c'est une agression. Alors que quand c'est un bobo qui parle de la même façon que moi, ce n'est pas ressenti de la même façon. Il y a aussi le fantasme des gens. Et si on était fort ensemble, on serait respecté.
Absolument.
Mohamed Benjibour,
moi je vais vous étonner.
Vous dites quoi?
Je vais vous étonner. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe.
Allez-y.
Par rapport au prénom.
Oui.
Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui prouve que le changement de prénom n'empêche pas.
Bien sûr.
Pas ça.
Oui. En
donc,
plus.
Je pense que le fait, il faut pas expliquer à nos auditeurs, surtout nos auditeurs, que changer le prénom c'est la solution. Je pense pas la même chose, et je pense qu'au contraire, pour les générations futures et pour dans le cadre de nos combats, il faut, c'est ta mère qui l'a fait, c'est super, etc.
Mais j'ai fait la même chose pour mes enfants, Ethan, Alan et Elise.
Écoute, là c'est un autre débat, mais moi je trouve que c'est une erreur, parce que ça veut dire qu'on baisse la tête devant. Moi je suis ravi que mon enfant s'appelle.
Mais regarde la communauté asiatique. Regarde la communauté asiatique.
Très bien, chacun son histoire, mais chacun son histoire.
Chacun son histoire, comme dit.
J'ai envie de dire une chose quand même par rapport à ça, parce que là je comprends ce que tu veux dire. Philippe a fait il a pas fait le choix, il est né comme ça. Mais il a compris la réalité. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il met en exergue là-dessus, et je me comprends parfaitement son propos, c'est que quoi qu'on fasse depuis 100 ans de présence maghrébine en France, 100 ans, hein, 122 ans pour être précis, 122 ans, oui, puisque ça fait 1900, ça n'a jamais changé ce paradigme, à savoir, vous avez un nom à connotation arabo-musulmane, maghrébine ou africaine, à ce moment-là, vous êtes immédiatement exclu. Et ça, c'est une réalité que les gens ne veulent pas voir.
Messieurs,
il suffit d'envoyer des CV, vous savez.
On en débattra. Merci à Philippe Nadjibouyaki, merci à Gamal Abina, merci à Mohamed Benjibour. Messieurs, je vous dis, c'était un plaisir. À la très très bientôt dans les informés. À très vite. Bilal Nedmat dans une poignée de minutes, 20h-21h. Quel est le programme?
Le programme, on va parler de Coupe d'Afrique. Bonsoir à toutes et à tous. Ah ben c'est demain. Demain, l'Algérie jouera.
Côte d'Ivoire.
Oui, Côte d'Ivoire à 17h. On va parler du Maroc qui reste invaincu. Bravo. Face aux Gabonais hier soir. La soirée historique aussi des Comores. Eh oui, en Coupe d'Afrique des Nations. Et Ben Arfa, le Tunisien du côté de Lille. Sans oublier le mercato à 0 euro de l'Olympique de Marseille. Voilà, Philippe.
À 0 euro. À 0 euro. D'accord. Ouais.
Et on en parle. Gestionnaire.
Et on en parle de la catastrophe des terrains.
Ah ben, les terrains, attention, on en parle.
Attention, je dois rendre l'antenne. C'est le programme qui vous attend avec Bilal Lenman dans une poignée de minutes, 20-21. Évidemment, à ne pas manquer. Merci, messieurs. Merci à la réalisation, à Yanis.
Merci
à vous tous. On ne lâche rien. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h. Et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.